Toujours au Salon du Livre 2005. Alors là, j'ai l'occasion d'interroger le dessinateur MM, qui est un tout jeune créateur qui vient de sortir sa première grosse série. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Et le numéro 1 s'appelle Pour toi, public. Ça serait pas mal que tu racontes un peu le speech de cette histoire qui est donc Idole. Voilà, déjà pourquoi le titre, tout ça. Mais aussi pourquoi tant de violence?
Pourquoi tant de violence? Bon, alors on va commencer par le début. L'album est composé de deux histoires qui sont en parallèle. Donc la première histoire, l'histoire d'un super policier, on pourrait appeler ça comme ça, un super policier, donc qui est le héros d'une télé-réalité, ce qu'on appelle un security show, c'est-à-dire on le filme pendant ses arrestations, pour le plaisir de la populace rivée devant ses écrans. Parce qu'on est dans 15 ou 20 ans dans une France gouvernée par une espèce de parodie lepénisante assez affreuse. Donc la sécurité est devenue voilà, béton. Et donc même on la passe à la télévision, en prime time. Et voilà, donc le super flic est bien sûr suicidaire, mais a une chance de. Vraiment, pas possible. Donc, chaque fois qu'il veut se flinguer, il n'y arrive pas.
En quelque sorte, il a le don de manipulation de probabilité. Et quand il essaie d'en finir avec la vie, ce don fonctionne contre lui. Donc, d'un perso super bourrin, il devient un personnage tragique parce qu'il n'arrive pas à se tuer, à en finir avec la vie.
C'est un peu la théorie que j'aurais moi. Je sais pas si mon scénariste aurait la même, mais moi, pour moi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a la deuxième histoire qui est on relate la vie d'un groupe de on va les appeler les monstres, des expériences semi-ratées dans un complexe souterrain secret, bien sûr, et militaire. Qui est donc là, on raconte leur vie, la manière dont ils en sont arrivés là. On n'en dit pas trop parce que forcément on en dira plus dans les prochains tomes, mais donc on démarre là-dessus. C'est une espèce de petite vie de famille entre monstres, entre expériences ratées dans un complexe souterrain secret.
Voilà, du super-héros en France. Un scénario étrange. Voilà, donc explique-nous un peu comment tu as abordé la chose.
En fait, le principe c'était justement d'éviter le cliché du super-héros, c'est-à-dire les collants, la cape, le côté bodybuildé, un peu justement l'esthétique un peu fascisante, et justement de partir de là pour détourner un peu ça et en faire soit des monstres ou l'extrême inverse, des super-héros à la solde d'un gouvernement plus qu'autoritaire. Donc on s'est amusé avec ces clichés-là pour justement les détourner et montrer en fait plus que des super-héros, des super-losers quoi, en fait. On est vraiment des perdants, perpétuels quoi.
Tu travailles donc sur la série Idole avec un scénariste qui s'appelle Gabella. Et donc ça serait pas mal de nous expliquer comment tu as pu le rencontrer, quoi, et vos premiers travaux ensemble, et comment vous en êtes arrivé donc à dire oh, on va faire cette série.
Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé ensemble sur des collectifs aux éditions Petit à Petit il y a 2-3 ans de ça. Donc on a un peu expérimenté la manière de fonctionner entre scénariste et dessinateur. Et on s'est retrouvé pas mal sur quelques goûts en commun au niveau bande dessinée, dont les comics. Bon, et il se trouvait que, voilà, il avait des auteurs de prédilection et moi aussi, qui se recoupaient. Et donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire quelque chose là-dessus, parce qu'il aimait bien mon dessin et il trouvait qu'il pouvait s'adapter à ce genre de scénario un peu super-héroïque.
Voilà, vous avez l'idée de faire du super-héros en France, en gros, enfin plus du surhumain. L'idée de le faire en France, c'était vraiment un besoin qui vous tenait à cœur, parce que après tout, mettre l'action aux États-Unis, quelque part, pour présenter le projet, ça fait plus sens. Pourquoi avoir aussi choisi de le faire à manière comics?
Eh ben, c'est une vaste question. En ce qui concerne le comics. Non, plutôt pourquoi on a fait ça en France, c'était justement parce que on en avait un petit peu ras-le-bol de voir des choses se passer aux États-Unis, dans des villes américaines, avec des noms américains, et faire quelque chose de. Voilà, il y avait possibilité de faire quelque chose en France avec des noms à consonance française, parce que bon, un petit peu de chauvinisme. Et puis ça nous permettait aussi de en anticipant vraiment de manière exagérée sur l'avenir, de faire une petite, pas une démonstration, mais de dire voilà, on a eu 2002, le 21 avril 2002, où on a eu très très chaud. Et du coup, ça, voilà, de faire que l'action se déroule en France nous a permis de faire passer des messages. On va pas exagérer, on n'est pas là non plus. C'est vraiment pour divertir quand même. Mais voilà, de mettre quelque chose qui peut-être parle plus aux gens que si ça se passait aux États-Unis.
Comment s'est passée la création du scénario? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui as fait, tiens, on pourrait faire ça, et Gabella a rebondi dessus? Voilà, comment en êtes-vous arrivé à créer l'intrigue?
En ce qui concerne l'intrigue, c'est en majeure partie Mathieu Gabella qui a tout fait, de A à Z. Donc il m'a parlé de des influences qu'il voulait faire passer dans le scénario. Et comme il se trouvait que ça m'allait parfaitement, je lui ai dit voilà, fais comme tu le sens, je te fais confiance. Et puis j'ai pas été déçu. Il a mis tout ce qu'il aimait et tout ce qui risquait de me plaire et qui m'a plu. Donc je lui ai laissé complète carte blanche et il me donnait parfois quelques petites pépites en me disant voilà, il va se passer telle chose dans telle scène. Donc moi j'étais les yeux écarquillés, excité à l'idée de pouvoir dessiner ça. Donc voilà.
Est-ce qu'il t'a envoyé un scénario texte ou c'était storyboardé? Quelle est ta part dans la création graphique? Par le dessin bien entendu, mais là je te parle de la mise en scène, des éléments à mettre en place, des petits gimmicks relatifs aux super-héros, voilà.
Bah, en fait, ce qui se passait, c'est que Mathieu a d'abord découpé tout l'album, c'est-à-dire planche par planche, case par case, avec les dialogues. Donc il m'a envoyé ça et j'ai travaillé sur le storyboard. Donc voilà, placement des bulles, les attitudes des personnages. Ça après, je lui ai proposé à son accord ou non. Donc comme ça nous donnait une base de travail assez sûre et on pouvait partir l'esprit tranquille. Alors après, il y avait des éléments dont il laissait forcément un petit peu flou. Il laissait un petit peu flou, notamment des décors, des détails de décors, des détails de personnages, enfin de le design des personnages, c'était pas forcément quelque chose qu'il avait défini vraiment. Il y avait les caractères des personnages, mais pas forcément le design. Donc ça, je pense être pour une bonne part quand même dans le visuel un petit peu des décors, des personnages, pour une bonne part. Donc
tout ça nous amène à la question des influences. Voilà, donc tu as parlé à 2-3 reprises, on a des influences comics, donc voilà, elles sont lesquelles et à quel moment de l'histoire tu t'es dit, oh mince, je suis en train de reprendre un truc là, j'ai déjà vu ça ailleurs.
J'ai débuté la lecture bande dessinée par les comics, donc forcément ça aide. Et ensuite, d'après ce que je peux entendre sur les influences qui sont visibles dans l'album, c'est Geoff Darrow. Geoff Darrow, dessinateur de Big Guy, Hardboiled. Designer pour Matrix, voilà, ça m'était sorti de la tête. Et donc voilà, il y a ça, il y a aussi des influences manga que j'essaye de faire passer, peut-être plus sur le tome 2, notamment Akira qui m'avait marqué, mais voilà, c'est pris une grosse claque. Et puis peut-être dans les comics récents qui m'ont vraiment plu, qui se détachaient, c'était le Quietly, Frank Quitely, qui a dessiné sur X-Men, une époque plus ou moins lointaine, mais voilà, là, ça m'avait vraiment, vraiment plu. Donc voilà, je pense que s'il y a des influences à citer, à ne pas oublier, c'est celle-là.
Ça veut dire quoi, influence? Je veux dire, quels sont les éléments graphiques de ces dessinateurs?
En ce qui concerne peut-être Geoff Darrow, c'était tous les détails, les petits détails. Les petites choses qui s'obligeaient à dessiner et qui forcément surchargent un peu la planche, mais qui en même temps mettent plein la vue. Et pour Akira d'Otomo, c'était des immeubles gigantesques, des perspectives de folie, tout ça avec un détail monumental. Voilà, le côté monumental. Donc on a l'impression d'être tout petit par rapport à l'image.
Alors, est-ce qu'il y a eu un choc entre la manière que tu as d'imaginer la case en tant qu'amateur de comics et les contraintes propres à la BD franco-belge? Est-ce que tu as ressenti ça à un moment donné?
Oui, le problème s'est posé parce qu'au tout début, avant le projet final, le dernier dossier qu'on avait monté, justement, j'avais essayé de faire un découpage plus dynamique, ce que j'appellerais à l'américaine, c'est-à-dire avec des cases un peu plus biscornues, vraiment, qui sortent, qui ne sont pas justement perpendiculaires, rectilignes, vraiment quelque chose qui explosait. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que le dessin collait pas, était plus justement peut-être franco-belge qu'américain, donc ça n'allait pas. Donc j'ai recadré et je suis arrivé à quelque chose qui s'approchait plutôt de la BD franco-belge, avec une influence quand même pour le découpage. Justement, je me suis bien inspiré quand même du découpage d'Otomo sur Akira, sur les albums d'Akira.
Tu es quelqu'un qui a toujours travaillé en couleur, ou est-ce que, voilà, par l'intermédiaire du manga, le noir et blanc, ça, c'est beau aussi quelque part? Oui. Parce qu'en plus, il y a une troisième personne qui s'appelle Lou, donc que je n'ai pas pu rencontrer, qui n'est pas sur le salon. Comment s'est passée donc cette relation à trois?
C'est vrai que moi, je conçois déjà le noir et blanc. Quand je dessine, c'est pour que le noir et blanc fonctionne tout seul, donc qui ne nécessite pas forcément de couleur. Après, bon, ça s'imposait, la couleur quand même, il fallait absolument qu'on en ait. Donc, au début, j'ai essayé de les faire, je ne suis pas coloriste, donc ça n'a pas forcément été concluant. On a trouvé un jeune coloriste qui n'avait jamais encore sorti d'album, et donc c'était sa première expérience aussi. Il a eu très peu de temps pour le faire, donc il s'en est très très bien sorti. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions en cours. Voilà, on lui disait clairement les choses qui nous semblaient moins, les choses qui étaient plus. C'est très très bien passé. Donc on continue sur ce rythme-là, quoi, sur le tome 2. Voilà, on rééquilibre. Maintenant que l'album est sorti, on voit les choses qu'il y a améliorées.
Oui, parce que le premier volume, il ne se passe rien. Je veux dire, c'est mort.
Oui, il s'en passe, mais le tome 2, il s'en passera encore plus. Enfin, il y aura plus de spectaculaire.
Qui dit la plupart du temps comics dit des séries avec 120, 140 numéros. T'arrives à faire tenir tout ça, enfin, cette habitude, ce rythme qui est propre quand même aux comics, dans des trois albums, pourquoi c'est ça, trois albums de 60 pages?
Il y a eu, c'est vrai, un peu de frustration, parce que du fait des 46 pages, on a été un peu obligé de condenser. Donc d'aller à l'essentiel, mais au final je crois qu'on s'y est quand même pas mal retrouvé. Là, c'est un album, le premier tome, on présente tous les personnages, on installe, on pose l'environnement, ce qui risque de se passer. Après, dans le tome 2, ça va commencer à s'accélérer un petit peu, on va apprendre beaucoup de choses et un peu plus, ça va être un peu plus péchu. Ça a bougé vraiment. Oui, je confirme, ça va être vraiment péchu.
Oui, parce que le premier volume, il se passe rien, je veux dire, c'est mort.